Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui achève sa semaine consacrée à la guerre par le droit en compagnie de Charles Citroën. Tout au long de cette semaine, nous avons employé indistinctement les expressions « guerre par le droit »,« lawfare » ou « extraterritorialité du droit », mais il apparaît en bout de semaine que ni l'une ni l'autre de ces expressions ne sont appropriées. Nous ne sommes pas en guerre avec les États-Unis et à mon avis, il faut se garder de dramatiser, de conflictualiser inutilement des relations qui le sont déjà suffisamment. Et d'autre part, ce n'est pas le droit qui est extraterritorial, mais le business et plus profondément encore le pouvoir dans un monde déterritorialisé. Alors, nous allons tenter dans cette dernière conversation de bien poser le problème et de voir quelle est la bonne échelle, le bon niveau pour y répondre. Et nous le ferons en compagnie de Charles Citroën, qui est l'auteur d'un article intitulé « Comment gagner la guerre de l'extraterritorialité » qui est publié sur un site que je ne saurais trop vous recommander, Le Grand Continent. Charles Citroën, bonsoir.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, vous avez tranché dans ce conflit de dénomination, parce que en disant « comment gagner la guerre de l'extraterritorialité », bon, c'est une manière de reprendre un peu des deux expressions. Alors, et pourquoi cette question de l'extraterritorialité est devenue aussi aiguë ces derniers mois, voire ces dernières années, Charles Citroën?
Alors, je pense qu'elle est très présente dans le débat public et auprès de la pensée des décideurs publics, notamment depuis la fameuse amende de 9 milliards d'euros à laquelle BNP Paribas a été condamné en 2014. Et ce qui a encore plus servi de catalyseur pour amener ce sujet dans le débat public, c'est bien entendu le retour des sanctions extraterritoriales décidées par Donald Trump en Iran.
Et qui était beaucoup plus unilatérale que les précédentes, qui procédaient d'une démarche multilatérale où la France notamment était d'accord, partager ce désir de sanction.
Oui, complètement. Et parce que là, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y avait eu donc cet accord en 2015 sur le nucléaire iranien qui était entré en vigueur début 2016. Et que, donc c'était un accord, certes, imparfait, incomplet, mais à mon sens, c'était le meilleur accord possible. Et l'AIEA a dit au cours de 15 rapports trimestriels entre 2016 et 2018 que l'Iran respectait parfaitement les clauses de cet accord de 2015. Par exemple, en matière de réduction du nombre de centrifugeuses, diminution de l'enrichissement de l'uranium. Et malgré ça, malgré un respect parfait de l'accord, les Américains, de manière unilatérale, ont rétabli des sanctions.
Oui, parce qu'ils ont une arme, mais c'est pas une arme contre nous. Ils ont une arme qu'ils ont construite d'ailleurs. C'est la toute-puissance du dollar.
Oui. C'est la toute-puissance du dollar, et en fait, la force du dollar, c'est que c'est une monnaie qui a pas beaucoup de rivales. C'est une monnaie qui est toujours la première monnaie de très très loin pour ce qui est des réserves de change, et c'est le cœur de cette politique extraterritoriale américaine, car dès qu'il y a des dollars, la justice américaine considère qu'elle est compétente, même si, comme vous l'avez abordé au cours des précédentes émissions, ça va bien au-delà. Si jamais une entreprise utilise des composantes américaines, travaille avec des Américains, ils peuvent tomber sous le coup de l'extraterritorialité américaine.
Mais Charles Citroën, précisément, cette fluidité, on parle d'ailleurs des liquidités économiques, elle s'immisce partout. À partir du moment où le dollar est la monnaie de référence et où il y a cette capacité de conversion pour les autres monnaies, bien sûr que les Américains vont se servir de cette arme et j'allais dire cette bonne guerre.
C'est vrai que la force du dollar, et d'ailleurs il y a maintenant un effet de réseau qui bénéficie au dollar, c'est que c'est la première monnaie. Les Américains sont structurellement en déficit pour ce qui est de leur balance courante, ce qui n'est pas le cas par exemple de la Chine ou de l'Europe, et ce qui leur permet en fait d'inonder le monde de dollars. Et c'est pour ça que c'est très difficile, on parle souvent dans le débat public d'internationaliser l'euro, mais c'est à mon avis chimérique. Déjà quand on regarde la place de l'euro actuellement, par rapport à la crise financière de 2008, l'euro reste de loin la deuxième monnaie internationale, mais elle est un peu plus distancée, encore plus distancée par rapport au dollar.
Elle a perdu du terrain.
Elle a perdu un petit peu de dollars quand on regarde, par exemple, les réserves de change au sein des banques centrales. Et puis, plus largement, il y a des défauts structurels de l'euro qui ne lui permettent pas de concurrencer le dollar.
Oui, alors justement, Charles Citroën, venons-en. Parce que là, on voit bien que c'est l'un des problèmes centraux. C'est la monnaie et c'est ce monde, cette mondialisation qui, pour l'instant, continue de faire du dollar sa monnaie de référence qui lui donne un privilège exorbitant. Pour quelle raison? Parce que ça serait l'objectif à atteindre de mettre l'euro comme une monnaie de référence et qui permettrait à une entreprise, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, de pouvoir commercer en euros sans jamais utiliser le dollar. Qu'est-ce qui s'y oppose?
Alors, il y a beaucoup de raisons. La première, donc, que j'ai évoquée brièvement, c'est cette absence de déficit de la balance courante qui nuit à cette capacité d'internationalisation tant de l'euro que du yuan, d'ailleurs. Ensuite, il y a un autre aspect qui est qu'il n'y a pas de marché obligataire intégré au sein de la zone euro. Il n'y a pas ce marché très liquide, très profond, qui est celui des obligations américaines qui inondent, par exemple, une partie de l'Asie de l'Est.
Mais qui fragilise aussi un peu les États-Unis, c'est ça le paradoxe.
Qui fragilise aussi un peu les États-Unis. Et puis d'ailleurs, on peut penser que sur le très long terme, l'affaire iranienne, en fait, va affaiblir le dollar. Parce que ça peut accroître la méfiance vis-à-vis du dollar et ça conduit des pays comme la Russie et la Chine à, par exemple, à développer leurs échanges bilatéraux tant en yuan tant qu'en rouble. Et ça incite la Chine à davantage internationaliser son yuan.
C'est toute l'ambiguïté de la politique de Trump qui paraît renforcer l'Amérique à première vue, mais qui en réalité pourrait accélérer cet effet de bascule du monde, un monde qui est de moins en moins multilatéral et qui est de plus en plus régional, avec des grandes zones, des grands pays, et qui va poser, on le verra tout à l'heure, le problème de l'Europe.
Puis il y a une autre dimension aussi, qui est assez peu présente dans le débat public, à mon sens, c'est la dimension militaire, parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui ont travaillé sur ces questions, et qui montrent, en fait, comment... Pour rester sur les États-Unis, le fait qu'ils aient 800 bases militaires dans le monde, dans près de 75 pays, qu'ils aient des accords, par exemple, et des troupes de manière massive sur le sol coréen, sur le sol japonais, ça leur permet, en fait, d'avoir des accords financiers avec ces pays qui surachètent, en fait, du dollar. Et d'ailleurs, pour aborder une petite anecdote, il y a une dizaine d'années, il y a un moment où tant le Japon que la Corée du Sud avaient laissé entendre qu'ils pourraient un peu diminuer leurs réserves de change en dollars, qui sont supérieures à 50% du total de leurs réserves de change. Et très rapidement, en fait, le secrétaire à la défense américain, pas le secrétaire au trésor, s'était déplacé sur place et puis leur a mis un petit coup de pression pour qu'on reste dans le statu quo. Et c'est pour ça que, en fait, c'est aussi un défaut inhérent à l'euro, c'est cette absence d'intégration, cette absence de force militaire et de capacité de projection européenne qui nuit un petit peu aussi à l'euro.
Mais, Charles Citroën, on y reviendra aussi à propos de l'Europe. Ce que ça veut dire, c'est que si on n'a pas d'armée, c'est parce qu'il manque à l'Europe une anima politica, c'est-à-dire un sentiment politique. Elle est peut-être trop post-politique, c'est le reproche qu'on lui fait souvent. Avoir une armée, ça veut dire avoir des intentions soit protectrices, soit agressives à l'égard du monde.
Oui, complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à un livre écrit par Zaki Laïdi en 2008. Et je trouve que sur le rapport de l'Europe avec la puissance, il avait tout résumé dans le titre de ce livre, qui était « La norme sans la force, l'énigme de la puissance européenne ». Et il soulignait ce que vous venez d'évoquer. Il manque à l'Union européenne des attributs essentiels de la puissance, comme le souligne Zaki Laïdi. Par exemple, l'absence d'armée unifiée, l'absence de volonté d'être le garant ultime de sa sécurité, la difficulté à parler d'une seule voix à l'international.
Mais tout cela est fort connu, mais souvent on s'arrête là, on s'arrête à cet inventaire, alors que derrière cet inventaire, c'est ce que j'entends par anima politica, qui donne d'ailleurs le mot animosité aussi. Ça veut dire qu'on se pense par rapport à son extérieur et par rapport à un extérieur qui est possiblement hostile. Et que l'Europe, me semble-t-il, j'aimerais avoir le sentiment, Charles Citroën, là-dessus, découvre par les temps qui courent.
Oui, c'est vrai. Et parce que, au-delà de ça, en fait, c'est dès le départ, en fait, le projet européen, il ne s'est pas pensé comme un projet de puissance, se caractérisant justement par la coercition. Puisque l'essence même du projet européen, c'est justement de se construire contre la guerre, pour la paix. contrairement à beaucoup d'autres puissances. Et puis cette aporie, elle est et cette absence européenne à être une puissance totale telle qu'on l'entend, elle est renforcée par le fait qu'il y a une identité européenne très forte, une civilisation européenne avec des héritages communs, mais il n'y a pas de peuple européen à proprement parler.
C'est ça. Alors on va continuer notre inventaire de savoir ce à quoi nous renvoie l'extraterritorialité du droit américain, l'extraterritorialité de la puissance américaine, disons-le, et qui nous oblige à nous poser des bonnes questions plutôt que de rechercher des solutions très très partielles, comme on le fait pour l'instant en France. Donc il y a une question centrale autour du dollar, autour de la monnaie, et donc autour de la convertibilité. Et là, vous insistez beaucoup sur la nécessité de se doter d'un SWIFT européen. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Charles Citroën, qu'est-ce que serait qu'un SWIFT européen ?
Oui, alors donc déjà, qu'est-ce que c'est que le programme SWIFT ? Donc c'est le mécanisme, l'outil financier par lequel transitent près de 90% des virements internationaux. Et c'est un mécanisme en fait qui est fortement contrôlé par les États-Unis. Et les États-Unis avaient déjà exclu entre 2012 et 2015 l'Iran de ce dispositif, ce qui avait porté un vrai coup pour les exportations de pétrole iraniennes.
Indépendamment de sanctions,
dans le package. Mais c'était vraiment, il y avait une volonté américaine, et il y a eu aussi cette volonté américaine lors du retour des sanctions en 2018. Et parce que dès le mois de novembre 2018, lors du retour du second volet des sanctions, SWIFT a exclu de son réseau beaucoup de banques iraniennes.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est la convertibilité qui est atteinte. Là, il ne s'agit plus de faire du commerce, mais simplement par le fait de ne plus pouvoir convertir sa monnaie, eh bien on contrôle, on a un levier économique extraordinairement puissant.
Exactement. Et c'est pour ça, en fait, partant de ce constat, que plusieurs responsables publics européens, je pense notamment à Bruno Le Maire, qui était très ouvert vis-à-vis de l'idée, ou à Heiko Maas, qui était le ministre des Affaires étrangères allemand, avaient pris position.
Mais qui n'a pas été suivi par Angela Merkel.
Par Angela Merkel, oui, en tout cas pour le moment.
Espérons-le.
Mais c'est vrai que c'est un sujet très difficile, il n'y a pas de consensus politique très, très lourd techniquement. Mais donc, ils ont pris position pour un programme SWIFT européen qui permettrait, en fait, d'une certaine manière, une indépendance vis-à-vis de SWIFT, du système bancaire européen, vis-à-vis du système bancaire américain. Et d'ailleurs, c'est ce que sont en train de faire, en fait, depuis 2015, les Chinois et les Russes. Même si pour l'instant, c'est résiduel, c'est assez peu conséquent, ça permet, en fait, à la Russie, par exemple, de beaucoup échanger avec l'Iran, toujours.
C'est ça. Ce qui veut dire que on voit que il faut abandonner cette idée d'extraterritorialité pour comprendre qu'on est dans un monde de flux. Et dans un monde de flux, eh bien, c'est les nœuds qui comptent. C'est les nœuds. Et la convertibilité, c'est un nœud. La qualité du dollar comme monnaie de référence, c'est un nœud. Et donc, on ne peut pas répondre, et je crois que c'est toute la difficulté de ce débat, c'est qu'on ne peut pas répondre uniquement en se situant au niveau du droit, qui est pas une superstructure, c'est pas vrai, c'est plus profond que cela, mais sans voir que c'est en allant sur la nature même de des flux économiques que l'on pourra trouver une réponse pertinente, Charles Citroën. Mon point, c'est de faire le lien entre le programme SWIFT, par exemple, la convertibilité, et le fait que, si on dit ça aux Français aujourd'hui, le programme SWIFT, ça leur dit pas grand-chose. Ça n'est pas, le discours politique ne s'est pas emparé de cette question de la monnaie comme étant une question centrale de l'indépendance européenne, et donc de construire comme ça un antidote à l'extraterritorialité du pouvoir américain.
Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que, en fait, beaucoup de gens partent du principe que tant l'internationalisation à grande échelle du yuan que celle de l'euro, en fait, sont utopiques pour toutes les raisons que j'ai pu esquisser.
On part battu.
Mais il y a une autre idée qui émerge de manière régulière dans le débat public, qui est celle d'une monnaie plus internationale qui serait capable de supplanter le dollar. C'est une idée, par exemple celle de monnaie internationale qui avait été évoquée par Keynes avec le Bancor dès 1944, qui parfois est abordée avec cette idée chimérique de monter en puissance des paniers de devises, des droits de tirage spéciaux du FMI. Et puis même récemment, à Jackson Hole en août, il y a le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui lui a mis l'idée dans le débat public d'une crypto-monnaie qui serait soutenue par des banques centrales, donc très différente du Libra qui, lui, n'est pas soutenu par des banques centrales nationales et qui, à terme, pourrait supplanter le dollar. C'est sûr que, pour l'instant, ça nous paraît utopique de chez utopique, mais dans 30 ans, qui sait.
Oui, mais alors non, c'est une idée intéressante, Charles Citroën. La difficulté, c'est que la monnaie électronique, avec la crypto-monnaie, c'est que, pour l'instant, il n'y a pas une crypto-monnaie, il y a une multitude de crypto-monnaies. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est finalement un retour de la plateforme, c'est qu'à partir du moment où on a beaucoup de crypto-monnaies, il y a un moment où il faut revenir à l'économie réelle, et donc il faut convertir cette crypto-monnaie en monnaie qui va permettre d'agir dans le monde et puis d'en profiter, d'en jouir. Et donc, à ce moment-là, c'est la plateforme, et en l'occurrence c'est une boîte américaine, qui va retrouver de la puissance en étant, ou qui va créer, construire sa richesse dans sa capacité de convertir les crypto-monnaies dans le dollar en l'occurrence. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est une crypto-monnaie, mais qui jouisse d'un consensus international.
Oui, tout à fait. Et c'est sûr que pour l'instant, on est très loin de ce consensus. Il n'y a qu'à voir tous les cris d'orfraie qui ont pu être prononcés à la suite du projet de Libra, qui est absolument pas soutenu par des banques centrales.
Alors, ce que je retiens dans cet échange rapide sur la crypto-monnaie et sur le Libra, c'est la nécessité, pour penser cette question de l'extraterritorialité, Charles Citroën, de se situer... d'asseoir nos analyses sur une bonne compréhension de ce qui se passe. Et une difficulté que nous avons vue tout au long de cette semaine, c'est finalement ce dialogue de sourds d'une réaction qui continue de penser à un monde westphalien. C'est un monde qui, je le rappelle, penser les rapports entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis et peut-être l'Extrême-Orient, mais qui continuait de penser à un monde cloisonné, un monde qui reposait sur un territoire. Or là, ce que montre l'extraterritorialité, mais qui n'a pas été compris et qui est le fond du problème, c'est que c'est un ensemble de choses dont le support principal est la monnaie.
Oui, tout à fait. Et de manière plus large sur ce monde westphalien qui est un peu, d'une certaine manière, un monde du passé, il y a une expression que j'aime beaucoup qui est celle de dilemme westphalien, qui est souvent utilisée par celui qui a eu le prix Nobel d'économie récemment, Nordhaus, et qui montre bien dans ses études économiques que, à présent, pour ce qui est de la lutte pour des problèmes liés à des biens publics mondiaux, je pense à l'environnement, je pense à la monnaie, au commerce, à la régulation d'Internet, eh bien c'est sûr que les États, en fait, n'ont plus les mêmes marges de manœuvre qu'avant.
Oui, mais alors, dans ce que vous dites sur les biens mondiaux, Charles Citroën, je vois un prolongement. C'est-à-dire, dans l'idée de bien commun mondial, c'est l'idée de soustraire au commerce ou de soustraire à un gouvernement par le commerce, plus exactement, un certain nombre de choses comme l'environnement, et vous avez mentionné la monnaie. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que on pourrait imaginer une mondialisation dont la monnaie de référence ne soit pas détenue par un pays, qui est la confusion originelle sur laquelle repose le pouvoir extraterritorial américain. Et la crypto-monnaie va dans ce sens-là. C'est-à-dire que il est important d'abord de bien comprendre dans quel monde nous vivons, et qui est un monde déterritorialisé. Mais ça veut dire ensuite que ce monde déterritorialisé, il appelle la construction de pouvoirs tiers ou de notions tierces comme la notion de commun.
France Culture, Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Charles Citroën, pour parler de l'Europe et de la protection contre l'extraterritorialité du pouvoir américain. Charles Citroën qui a choisi de nous faire entendre cet air, ce chain, du groupe Fleetwood Mac.
Exactement.
Oui, pourquoi, oui. Pourquoi ça,
parce qu'en fait, c'est un souvenir d'une série que j'ai récemment visionnée, qui s'appelle The Americans, oui. Et qui est une série qui gagne à être connue.
Ah ben, The Americans, voilà une question, voilà précisément notre question aujourd'hui, parce que ce que nous avons du mal à comprendre, Charles Citroën, et que vous nous permettez de comprendre dans cet article, c'est que l'extraterritorialité n'est qu'une effectuation du pouvoir, des formes que prend le pouvoir dans la mondialisation et qu'elle a prise dans ces dernières décennies. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un problème juridique, ce n'est pas qu'un problème économique, ce n'est pas qu'un problème géopolitique. C'est la liaison entre ces différentes composantes du pouvoir. C'est cela qui se joue à travers l'extraterritorialité. Et donc, il faut comprendre que la monnaie seule ne suffit pas, le business seul ne suffit pas, la puissance militaire ne suffit pas. C'est un ensemble, Charles Citroën.
Oui, c'est un ensemble. Et aussi, en fait, mon point de départ lorsque j'ai écrit cet article, c'était de me dire que récemment, quand on aborde le problème de l'extraterritorialité et de la réponse européenne, on a une vision un peu directe, frontale. Et on regarde ce qui s'est passé avec l'Iran. Et oui, là, effectivement, la réponse européenne, à bien des égards, a été insuffisante. Et l'Europe a perdu cette bataille iranienne. Les entreprises européennes ont déserté l'Iran. On les comprend qu'un groupe Total qui a 90% de ses financements en dollars, un tiers de ses actionnaires américains et pour qui le marché américain est 50 fois plus conséquent que le marché iranien, on comprend qu'ils partent.
Oui, mais justement, alors je vous arrête, Charles, oui. Citroën, sur ce point-là, parce qu'il est central. C'est-à-dire que la réponse souverainiste, la réponse westphalienne, celle qui consisterait à dire on va contrôler de nouveau ce que font nos entreprises françaises, elle procède de l'idée qu'on a des entreprises qui sont exclusivement nationales, oui. Ce qui n'est plus vrai. On Tout a des fait. Entreprises multinationales qui ont leur siège en France, ce qui est différent. Et puis, ça suppose aussi qu'il y ait un lien de subordination entre l'État et ses entreprises. Mais précisément, c'est cela qui n'est plus vrai. Les entreprises, elles répondent à la loi du marché, elles répondent à l'intérêt de leurs actionnaires, elles répondent à la nécessité de survivre et de ne pas perdre dans la concurrence internationale. Donc quand vous nous dites Total choisit l'Amérique contre l'Iran, oui, bien sûr, et il le fait pour des raisons économiques.
Ah oui, tout à fait. Et puis même au-delà des points que vous avez évoqués, il y a aussi pour un groupe comme Total l'enjeu de l'accès à des banques qui ne peuvent pas se permettre de perdre leur licence bancaire aux États-Unis et qui ne peuvent pas se permettre donc d'aider Total en Iran. Oui. Après, le problème de tout ça, c'est que pourquoi est-ce que c'est très néfaste pour nous l'extraterritorialité américaine ? Bah, on le voit dans l'exemple de l'Iran très souvent, et c'est le cas avec cet exemple de Total en Iran, c'est des groupes chinois ou des groupes russes qui ont remplacé ces groupes français. Et puis au-delà de ça, les groupes américains, la justice américaine profitent souvent des enquêtes exercées par exemple dans
bien
le cadre
sûr,
du FCPA pour tirer beaucoup
oui.
d'informations des entreprises.
Bien sûr, mais je voudrais revenir sur quoi, rester sur ce oui. point-là, Charles Citroën. L'Europe s'était organisée pour répondre aux sanctions contre l'Iran en disant on va s'organiser et on va faire un groupe qu'on appelle Instex oui. de protection par l'Europe des entreprises européennes. Vous pouvez nous expliquer un peu
oui.
ce projet ?
Oui, alors en fait donc, ce projet d'abord est parti du constat que d'autres solutions n'étaient pas viables sur le long terme. Donc par exemple, il y avait eu des solutions envisagées avec la Banque Européenne d'Investissement mais qu'il y a trop de ces prêts qui sont libellés en dollars, donc l'hypothèse avait été écartée. Puis il y avait eu l'idée qui a été effectuée d'ailleurs d'activer le règlement de protection de 1996 qui vise à protéger les entreprises européennes contre des mesures extraterritoriales, mais c'est juste un règlement en fait symbolique qui n'a pas vraiment de portée juridique
et économique.
Pourquoi
il n'a pas de portée juridique?
Bah parce que c'est toujours le même problème en fait,
bien
c'est-à-dire
sûr.
Qu'il est opérant sur le territoire européen,
exactement,
mais pas au-delà.
Il continue de se penser de manière territorialisée.
Oui. Et forcément, donc l'arbitrage pour un groupe comme Total est très vite fait. Et donc, partant de ce constat, il y a une idée qui a émergé au sein des décideurs publics européens, qui est celle de ce mécanisme d'Instex, qui est en train de voir le jour. C'est très lent. Et en fait, c'est un mécanisme qui correspond un peu à un mécanisme de troc et qui permet d'effectuer des transactions notamment dans des domaines qui échappent aux sanctions, comme le secteur agroalimentaire ou le secteur pharmaceutique. Et le principe, c'est de dire on va effectuer des mécanismes de troc pour continuer de commercer avec l'Iran et pour soutenir l'économie iranienne, qui a tout de même perdu plus de 6% de son PIB rien que pour les derniers mois, rien que pour l'année 2019. Et pour être plus précis sur ce mécanisme, donc c'est un mécanisme qui est porté par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui est dont le siège est à Paris, dirigé par un Allemand avec une présidence tournante qui actuellement est britannique. Mais si le mécanisme est toujours pas effectif, les torts en fait sont partagés. Parce que d'une part, certes les Européens ont mis un peu de temps pour le rendre opérationnel, mais d'autre part, les Iraniens sont aussi responsables parce que ils ont rechigné à mettre en place un organisme miroir
oui.
Exactement. D'une part, et puis d'autre part, il y a une contrepartie à la mise en place du mécanisme qui est indispensable pour les Européens, qui est que l'Iran prenne des engagements très forts dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme, notamment en prenant des engagements vis-à-vis du groupe d'action financière internationale qui a donné à l'Iran jusqu'à fin octobre pour prendre certaines dispositions en la matière. Et l'Iran l'a toujours pas fait. Donc en fait, on se dirige peut-être vers un mécanisme instex. Effectif mais non utilisé.
Oui, c'est ça. Effectif qui existe, existant mais non effectif. Mais alors arrêtons-nous un peu sur les raisons de l'échec ou du non démarrage d'Instex, Charles Citroën. On va retrouver nos lignes de force, c'est-à-dire que tout d'abord le troc, on ne sort pas comme ça aussi facilement du commerce international.
Bien sûr, bien sûr.
Et que le troc, l'échange qui a un petit côté archaïque, eh bien n'arrive pas, ne se détache pas, c'est plus une évidence. Mais surtout, le GAFI, on demande aux Iraniens qu'ils respectent un minimum de standards dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Et bien sûr, parce que là aussi, il faut comprendre, et vous insistez sur ce point, que les valeurs morales qui sont contenues dans le FCPA et ce fameux traité, cette fameuse loi et traité OCDE contre la corruption, nous y sommes attachés. Les consommateurs européens y sont attachés. Les entreprises européennes y sont attachées. Et ce qui fait la force de l'extraterritorialité, c'est précisément ce mixte du militaire, on en a parlé, du monétaire, on en a parlé également, mais aussi cette dimension morale, je sais pas comment l'appeler, mais cette force dans des valeurs mêmes qui sont contenues dans et indissociables des flux économiques, Charles Citroën.
Ah oui, tout à fait. Et c'est, à mon sens, en fait, le génie de l'extraterritorialité américaine telle qu'elle a été pensée dès le début des années 90, parce qu'il faut rappeler que dès 1993, le secrétaire d'État de l'époque, ainsi que le secrétaire au Trésor, avait pris position pour faire, en fait, de l'extraterritorialité pas seulement une arme morale, mais aussi une arme économique au service des intérêts américains. Et c'est, à mon sens, pour ça, alors que l'internationalisation, l'extraterritorialité du FCPA que vous avez évoqué date quand même de la seconde moitié des années 90, les autorités européennes ont commencé seulement à se saisir du sujet il y a 5-6 ans, parce que effectivement on est tous pour la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent, le respect de certains embargos, mais après...
On n'a pas vu le piège
américain, comme le dit si bien Frédéric Pierucci.
Oui, c'est ça, on n'a pas vu le piège, et on n'a pas vu le piège parce que je vois que la force de l'extraterritorialité américaine, c'est précisément cette capacité de lier ces différents registres ensemble, de les asseoir sur un principe moral et d'avoir pour ressort profond le fait que les entreprises vont toujours faire in fine un choix pour le marché et non pas un choix politique. Et donc, ils arrivent à faire de la politique en quelque sorte par les entreprises qui ne sont pas du tout américaines.
Oui, tout à fait. Et puis moi, comme vous l'imaginez, j'ai rien contre le respect de la corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent,
contre le terrorisme.
Voilà. Mais après, le problème, ce sont les chiffres et ce qu'en font les Américains. Et il y avait des données très intéressantes dans le rapport parlementaire dit Berger-Leloup sur toutes ces questions, et qui montrait bien, alors que par exemple pour ce qui est des embargos et de la lutte contre le blanchiment, qu'entre 2004 et 2015, 14 des 15 plus grosses sanctions visaient pas les entreprises chinoises, américaines, non, des entreprises européennes, et souvent pour des embargos comme celui de Cuba, qui sont, même s'il faut utiliser cette expression avec parcimonie, absolument pas reconnus par la communauté internationale, parce que par exemple depuis 92, chaque année l'Assemblée générale des Nations Unies vote vote une résolution sanctionnant cet embargo contre Cuba
et juste sans effet.
Et donc c'est pour ça, et donc il y a eu l'amende bien sûr très médiatique de BNP Paribas, mais il y a eu aussi pour les mêmes faits la Société Générale qui a été condamnée bien à sûr. Plus d'un milliard.
Bien sûr, et nous éprouvons une résistance bien légitime à choisir plutôt le commerce de manière exclusive avec l'Iran, la Chine ou la Russie, qui sont quand même des pays qui ne brillent pas par leur respect des droits de l'homme et qui ne partagent pas totalement notre conception de ce que c'est qu'un marché sans une concurrence faussée et orientée, espérons-le, au développement humain.
Oui, c'est sûr, Antoine Garapon.
Alors voilà, donc on voit la complexité et la force de ce modèle de l'extraterritorialité du pouvoir américain. Alors, il y a une donnée supplémentaire, sans mauvais jeu de mots, qui est bien sûr celui de l'informatique et de la révolution numérique, qui a été là aussi très intelligemment utilisée comme un relais de la puissance américaine et comme un relais de l'extraterritorialité par la fluidité des réseaux numériques, Charles Citroën.
Oui.
Et je pense par exemple au Cloud Act. Qui a été une manière de continuer et de contourner finalement ce que les Européens ont voulu faire par le RGPD, qu'ils l'ont contourné en disant non, les GAFAM restent des entreprises américaines qui devront faire preuve de leur loyauté première à l'égard des États-Unis.
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs très intéressant puisque vous avez évoqué le RGPD. Et le RGPD, c'est une bonne illustration qu'il y a certaines choses qui sont en train d'évoluer en Europe. Et que, en fait, pour la première fois, dans le RGPD, il y a une dimension extraterritoriale, noir sur blanc, de la norme européenne.
Oui.
Et donc, ça signifie quoi, de manière très concrète? Eh bien, qu'un, par exemple, un ressortissant européen qui vit aux États-Unis, il a le droit, comme un Américain, au respect des règles du RGPD. Et ces règles, bah, comme beaucoup le savent, ont permis de consacrer des principes tels que le droit à l'oubli, la portabilité des données, le respect du consentement. Et en fait, et cette extraterritorialité européenne, qui pour l'instant est juste embryonnaire, mais elle marche. Alors, et pourquoi est-ce qu'elle marche? Bah, par exemple, parce que la semaine de l'entrée en vigueur du RGPD en 2018, Mark Zuckerberg avait annoncé que Facebook allait se plier à la norme européenne. Quelques semaines plus tard, lors de la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon, les autorités japonaises avaient dit aussi, suite à l'entrée en vigueur du RGPD et l'entrée en vigueur progressive de cet accord de commerce entre nos deux entités, nous allons nous plier aux normes du RGPD. Et parce que il y a en fait une contrainte financière aussi qui est très importante, parce que en cas de non-respect de certaines des dispositions du RGPD, des entreprises comme Facebook peuvent être condamnées à une amende de plus de 4% de leur chiffre d'affaires. Et même pour Facebook, 4% du chiffre d'affaires, c'est colossal.
Mais bravo Charles Citroën, ce que vous avez prononcé, le mot d'extraterritorialité européenne. Oui. Et bien sûr, parce qu'on retrouve dans le RGPD, donc dans ce règlement européen, on retrouve tous les ingrédients de ce que nous avons décrit dans l'extraterritorialité américaine. C'est-à-dire, ces ingrédients sont d'abord le pouvoir du marché. Le marché européen est un marché absolument indispensable, parce que le marché américain n'atteint pas sa maturité en raison de la fermeture du marché russe et du marché indien et chinois. Donc on a le marché avec nous. On a fait preuve d'unité et on a assis ce règlement sur une valeur morale,
oui,
et auquel tous les citoyens du monde sont sensibles, le droit à l'oubli, le respect de sa vie privée, une distinction entre la sphère publique, ne pas être fliqué insidieusement, etc. Et donc, ça a parlé à tout le monde.
Bien sûr, même si le rapport à ces valeurs va beaucoup différer entre les trois grandes zones géographiques que j'évoque, à savoir l'Europe, la Chine et les États-Unis.
Mais là, on a été capable de trouver une valeur commune parce que c'est une technique commune. Et donc, la technique numérique fait que tout le monde peut se représenter l'intérêt qu'il a pour le droit à l'oubli, pour lui, pour ses enfants, pour ses proches, et l'intérêt à la protection de sa vie privée. Ça va être différent quand on va toucher d'autres domaines, et qui est une des difficultés de l'Europe. Mais j'insiste sur un point, sur lequel vous insistez également, d'ailleurs, Charles Citroën, c'est que la force de l'Amérique, c'est qu'elle est assise sur une nation, sur les valeurs de la nation américaine. Et là, pour l'Europe, eh bien, l'unité de son territoire n'est pas totalement acquise. C'est-à-dire que il faudrait faire intervenir un acteur supplémentaire très important, qui est la Chine.
Oui, parce que C'est vrai que la Chine, en fait, il n'est pas exclu que dans quelques années, elle ait recours aussi à des législations extraterritoriales. Et de manière plus globale, en fait, pour moi, il y a une question qui est centrale, c'est celle de la norme. Et je pense que cette guerre normative sera vraiment structurante au cours des prochaines décennies dans la course à l'hégémonie que vont se livrer les États-Unis, la Chine et, espérons-le, l'Europe. Oui. Et en fait, donc, quand, par exemple, la Chine met en place les routes de la soie en 2013 avec le discours de Xi Jinping au Kazakhstan, donc qui est en fait une réaction notamment au traité de libre-échange européen, américain.
Que la mondialisation vue par les Chinois.
Exactement. Et en fait, progressivement, ce qui n'était peut-être pas le cas dès 2013, mais dès 2015, on a vu émerger une volonté de la Chine de façonner la mondialisation de demain, d'adapter ses normes, faire en sorte que le monde s'adapte aux normes chinoises. Et pourquoi c'est décisif ? Parce qu'en fait, les normes d'aujourd'hui, bien souvent, sont les marchés de demain.
Bien sûr, mais en même temps, peut-être sommes-nous à la fin des grands traités de libre-échange pour cette raison, parce que ce sont des traités de deuxième génération dans lesquels ce qui est échangé, c'est pas uniquement des biens, c'est aussi un désarmement des normes.
Oui.
Ce qu'on a vu en Europe. Sauf que ce désarmement des normes, il est extraordinaire. Dangereux parce que il nous laisse désemparés face à une mondialisation où le pouvoir s'exerce par les normes.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, à mon sens, on est maintenant dans une époque où le multilatéralisme, pour beaucoup de sujets, est en échec. Par exemple, c'est criant en matière commerciale, en matière d'approche vis-à-vis de la vie privée. Il ne faut pas espérer des accords internationaux, globaux, sur ces sujets. Et donc, en fait, comme le dit d'ailleurs Noël Lenoir, il va y avoir une confrontation qui sera celle de l'extraterritorialité entre
trois sources principales, oui, qui seront d'une part les États-Unis, on les a vus à l'œuvre, oui, d'autre part les Chinois, on commence à les voir à l'œuvre, oui, et un acteur présent-absent qu'est l'Europe.
Oui.
Présent-absent, vous rappelez dans votre article, Charles Citroën, vous rappelez cette citation de Pierre Buller que je trouve personnellement extrêmement percutante. L'Union est une puissance normative dont le code génétique récuse la puissance.
Récuse la puissance, même si après, comme on l'a vu avec le titre du livre tout à l'heure de Zaki Laïdi, donc ça va pas être une puissance telle qu'on l'entend, mais ça va être tout de même une puissance énigmatique qui est celle de la norme sans la force. Et puis après, l'Union européenne, en fait, qui bénéficie d'un marché de 500 millions de consommateurs avec un fort pouvoir d'achat, elle a cet atout normatif et elle s'en saisit, mais peut-être pas suffisamment. Et on pourra évoquer certains.
Ça existe, ça, Charles Citroën, la norme sans la force? Est-ce que c'est pas un peu une utopie ? Est-ce que c'est pas le fond de l'utopie européenne d'avoir une norme qui soit déliée d'une politique, qui soit déliée de la force, alors que l'enseignement de l'extraterritorialité américaine, c'est précisément de montrer que la force de cette extraterritorialité, c'est qu'elle lie la norme à une politique et aussi à un territoire. Or, la grande faiblesse européenne, c'est que ce territoire, l'unité de l'espace communique, économique et juridique américain n'est pas complètement acquis.
Après, oui, mais on pourrait débattre pendant des heures de la signification de notre approche vis-à-vis de la force. Mais je suis convaincu qu'on a des exemples de cas où l'Europe a réussi à imposer ses normes sans passer par la force. Par exemple, il y a une chercheuse aux États-Unis qui travaille beaucoup sur ces questions, qui parle de l'effet Bruxelles depuis 2012 et qui dit que dans bien des cas, en fait, les normes européennes qui sont plus protectrices vis-à-vis du consommateur s'imposent en fait au monde entier. Elle prend l'exemple du règlement REACH,
oui,
qui est lié aux substances...
En un mot, le règlement REACH,
oui,
c'est en termes de chimie.
Voilà, c'est un règlement sur la chimie qui date de 2006 et sur l'utilisation, la circulation des substances chimiques. Et donc, ce règlement qui date de 2006, de manière très intéressante, il a donné lieu à des législations analogues en Turquie, dans plusieurs États asiatiques comme la Corée du Sud, et puis même de manière partielle aux États-Unis, alors qu'à aucun moment l'Europe a fait office d'acte belliciste ni de coercition.
Vous croyez, juste... Charles Citroën, qu'on va pouvoir asseoir notre norme exclusivement sur l'attractivité de la civilisation? C'est ça finalement la force de l'Europe, que ce soit pour le RGPD, pour REACH ou pour d'autres choses, c'est dire on a une solution un peu plus civilisée d'organiser la coexistence des nations dans le monde.
Bah oui, mais ça va au-delà de ça. C'est toujours en fait ce qui est central, c'est que l'Union européenne, c'est quand même 500 millions de consommateurs avec des gens qui ont un très fort pouvoir d'achat. Et donc Par exemple, il y a eu au cours des derniers mois une directive qui a été adoptée au Parlement européen, qui est en voie de transposition en France, qui s'appelle la directive Services Médias Audiovisuels, et elle contraint des groupes comme Netflix, Amazon Prime, à avoir d'ici l'été 2020 30% de leur catalogue en Europe qui soit composé d'œuvres européennes. Et c'est quelque chose, en fait, il n'y a jamais eu de coercition. Mais forcément, pour Netflix, pour Amazon, le marché européen est indispensable.
Bien sûr, parce qu'on a su servir de notre marché. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui est en train de se passer avec les sanctions contre les GAFAM? Parce qu'on a vu là aussi que l'Europe relève la tête.
Oui.
Pas depuis très longtemps. Mais que la véritable réponse à l'extraterritorialité américaine, c'est aussi de savoir se servir de notre marché pour obliger les GAFAM à payer des impôts, à respecter les œuvres culturelles européennes, etc.
Oui, et puis même ça va au-delà de ça, mais c'est lié à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que, par exemple, les GAFA ont souvent été condamnés par le droit de la concurrence européen. Je pense notamment à Google, qui en l'espace de 2 ans a été condamné à 3 reprises pour des amendes d'un total de plus de 8 milliards d'euros pour non-respect des règles antitrust européens. Et en fait, parce que, même si c'est un peu en train de changer aux États-Unis, historiquement, le droit de la concurrence européen, et c'est toujours lié à cet aspect normatif, est un droit de la concurrence qui privilégie, le consommateur [S2] Oui. [S1] Au détriment du producteur, même [S2] Mmh. [S1] Si... Voilà, c'est un balancier plus ou moins équilibré selon les décisions. Et on n'a pas le même rapport à l'émergence et la même facilité à voir émerger des grands groupes qu'aux États-Unis. Et donc, en fait.
Dans ce sens-là, d'ailleurs, le refus de la fusion Siemens-Alstom va pas dans le bon sens.
Oui, il va pas dans le bon sens. Et ça, c'est très véridique, en fait, de cette approche qui tend à privilégier toujours par les normes le consommateur au détriment du producteur. Même si c'est beaucoup plus complexe.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Tout est question de où est-ce qu'on place le balancier.
Et Charles Citroën, 9 milliards BNP, 8 milliards pour les GAFAM.
Et 13 milliards aussi pour Apple.
Pour Apple. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une logique d'un équilibre de, j'allais pas dire de la terreur économique, mais disons un équilibre des extraterritorialités?
Alors pour l'instant, je dirais pas qu'il y a un équilibre des extraterritorialités, justement parce que cette extraterritorialité européenne est très résiduelle. Donc ça a démarré avec le RGPD. Moi, j'espère qu'il y aura d'autres sujets qui
résiduelle peut-être, mais prometteuse.
Oui, très prometteuse. Mais donc après, voilà, toute la question, je pense, de la prochaine législature européenne, ça sera où est-ce que l'Union européenne décide d'extraterritorialiser certaines de ses normes. Est-ce que, donc, par exemple, l'Europe va extraterritorialiser certaines de ses normes en matière de lutte contre la corruption, comme l'a suggéré à plusieurs reprises Bernard Cazeneuve, en donnant des pouvoirs très forts au procureur européen? Est-ce que c'est en matière de lutte contre la fraude fiscale, en matière de respect de l'environnement? Je pense qu'il y a beaucoup de domaines à étudier. Et puis, même au-delà de ça, il y a aussi une réflexion à avoir sur quel outil utiliser dans cette extraterritorialité. Est-ce qu'il faut renforcer, par exemple, les pouvoirs de la Cour de justice de l'Union européenne? Est-ce qu'il faut plutôt renforcer les pouvoirs du procureur européen, des deux? Et ça, je pense
que c'est... On revient aux juges. On a vu que les juges étaient un élément central de l'extraterritorialité américaine. Eh bien, peut-être que les juges européens, qu'ils soient le procureur ou qu'ils soient la Cour de justice, seront des acteurs absolument centraux demain dans ce nouveau monde qui... s'ouvre.
Et ils l'ont, oui, tout à fait. Et puis ils l'ont déjà été, comme je pense que vous maîtrisez bien la décision Google contre Spain, qui illustrait cette puissance du juge.
Eh bien, merci beaucoup, Charles Citroën.
Merci, Antoine Garapon.
Matière à penser, Charles Citroën, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Justine Wild, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et la semaine prochaine, je céderai mon siège à Dominique Rousset. À bientôt.